Bonjour Philippe, Antoine de
Bonjour.
Phibie à l'appareil. Merci de prendre ce Phibie Call, un Phibie Call d'extérieur, je crois, parce que vous êtes actuellement aux Tuileries. Philippe, je vous appelais, j'aurais aimé qu'on discute ensemble du dernier article que vous avez publié sur votre blog et qui s'intitule COP15, la nécessité d'un engagement fort et qui dresse le bilan de cet événement. Alors, en préambule, pourriez-vous simplement nous rappeler la différence entre la COP15 qui s'est tenue à Montréal ces derniers jours et la COP27 qui avait eu lieu à Sharm el-Cheikh il y a quelques semaines.
Oui, bonjour. La COP27, c'était spécifique au climat, au changement climatique. La COP15 est spécifique à la biodiversité. Et donc, c'est un environnement beaucoup plus large que le seul climat, puisque ça prend en compte tous les systèmes vivants et leurs interactions. Donc, c'est ce qui aussi complique un petit peu la chose. C'est-à-dire que sur le climat, on a tous défini un objectif de 1,5 degré au-dessus de la moyenne pré-industrielle, et tout le monde l'a en tête. Sur la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe parce que on va des questions de pêche, d'extinction d'animaux, de pesticides ou de réchauffement climatique. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et qui est plus difficile à appréhender comme ça spontanément, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup moins aussi.
D'accord. Bon, merci pour cette précision. Et alors, du coup, que faut-il retenir de cette COP15?
Alors,
40 bas encore ratés?
non, là, il y a deux choses. La première, c'est que le cadre qui a été défini se rapproche un peu de celui de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est appelé 30 by 30, c'est-à-dire 30% des terres et 30% des zones marines devront être sauvegardées à l'horizon 2030. Pour l'instant, on est à 16%, 17% et presque 8%, donc ce n'est pas encore suffisant. Et les États s'engagent sur cette sauvegarde des territoires avec des objectifs, des engagements qui seront pris. Un peu comme dans l'accord de Paris sur le climat, où chacun s'est engagé à réduire ses émissions de carbone. Donc il y a ce cadre qui est assez similaire. Il y a un cadre financier qui ressemble beaucoup aussi à celui de l'accord de Paris, où les pays développés devront aider les pays émergents, les pays en développement, parce que ce sont eux qui portent une grande partie de la biodiversité. On peut penser à l'Afrique, on peut penser au Brésil, par exemple, ou à d'autres, qui sont soumis à des pressions terribles en interne pour se développer, mais qui ont une responsabilité globale très forte. D'où ces arrangements financiers qui seront nécessaires et qui sont de grande ampleur. L'autre point, c'est que l'accord de Paris sur le climat ne fonctionne pas très bien, ne fonctionne pas aussi bien qu'il aurait été souhaité, parce que il y a peu de mesures contraignantes. C'est-à-dire que quand on voit les engagements pris par les États en 2015 à Paris, en 2021 à Glasgow et renouvelés cette année à Sharm el-Cheikh, on converge vers une température à 2,4 degrés à la fin du siècle, qui est très loin du 1,5 degré, parce qu'il n'y a pas de contraintes particulières, ce qui est normal dans un accord de ce type-là. Mais c'est pour ça que je dis, et pour la biodiversité, eh bien le risque est d'avoir quelque chose d'un peu similaire, où chacun va faire ses efforts dans son coin, mais peut-être pas suffisamment. Et c'est en cela que l'effort collectif devrait être la somme, plus que la somme, de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il va falloir avoir des engagements très forts à tous les niveaux pour éviter ce que les spécialistes appellent, par exemple, la sixième extinction. C'est-à-dire, vous savez, il y a eu cinq extinctions de flore et de faune au cours des 500 dernières millions d'années, mais qui étaient liées à des événements exogènes. Par exemple, la météorite qui est tombée au moment qui s'est traduite par la fin des dinosaures, par exemple. On a toujours eu des événements de ce type-là, sauf que là, la sixième extinction, si elle a lieu, et elle a toutes les chances d'avoir lieu, elle est liée au comportement humain. Et c'est ce qui relie la question du climat et la question de la diversité, c'est que les deux inquiétudes qu'on peut avoir très fortes sont liées au comportement humain. Et donc, il faut qu'on change cette façon de faire. Et c'est l'objectif de cette COP15, comme c'était l'objectif de la COP27 à Sharm el-Sheikh.
Et vous identifiez quand même des progrès réalisés pendant ces réunions, ou est-ce qu'encore une fois, beaucoup d'engagement et finalement peu de résultats, quoi?
Non, il y a des engagements. D'abord, sur le cadre un peu formel, c'est un premier point important, une sorte de méthode globale, même si on rentre pas trop dans le détail. Et puis l'autre point quand même très important, c'est que quand on regarde la situation géopolitique mondiale, on voit que tout le monde se tire un peu, se tape un peu dans les côtes avec les coudes en disant « laissez-moi passer le premier ». Ce qu'on a observé là à Montréal, c'est que le texte final a été proposé par la Chine. Et donc, sur ces questions, on perçoit quand même une espèce de solidarité, de coordination à l'échelle globale qu'on ne voit pas sur le cycle économique de très court terme. Donc ça, je trouve que c'est important. Les États continuent de se parler sur des sujets essentiels et sont tous prêts à faire des efforts collectifs. De ce point de vue-là, ça reste très positif. C'est un lieu de discussion sur des problématiques globales. Et en cela, les COP ont un intérêt majeur.
D'accord. Bon, écoutez, merci encore, Philippe, pour ces précisions et cet éclairage sur cette réunion donc, d'importance. Donc, Philippe Wächter, je rappelle, vous êtes chef économiste pour Ostrom Asset Management. Et on peut suivre l'actualité économique et vos réflexions sur votre blog, dont nous mettrons l'adresse sur la page du podcast. Merci encore Philippe, et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Merci, très bonnes fêtes à vous aussi.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.